Ben, ça brasse pas mal dans le monde syndical. Je vous parle pas du départ de Claudette Carbonneau, la présidente de la CSN. Vous avez vu qu'elle a décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat. Il y aura donc ce congrès pour choisir un nouveau président à partir du 15 mai prochain. Non, je vous parle surtout des batailles qui ont lieu en ce moment, que mènent entre autres les syndicats pour rester tout puissants comme ils sont, entre autres au Québec. Vous avez vu d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis, en particulier dans l'État du Wisconsin. Il y a un gouverneur républicain, Scott Walker, qui a mis de l'avant un projet de loi controversée qui a fini par être adoptée, mais c'est envers et contre tous. Il y a eu des manifestations, il y a eu des gens qui sont même rentrés dans l'espèce de parlement au Wisconsin. Les républicains sont barricadés à l'intérieur pour pouvoir voter. Les démocrates ont changé d'état. Bref, une histoire rocambolesque, tout ça parce que on dit, en tout cas c'est la prétention de Scott Walker, assez c'est assez. On peut plus continuer de payer des conventions collectives qui finalement entraîne l'État dans un marasme économique de finances publiques incontrôlables. Et il y a plusieurs États, et le Québec à l'extérieur des États-Unis regarde ça aussi, parce qu'il y a des États américains qui disent « Mon Dieu, on devrait faire comme le Wisconsin », c'est-à-dire serrer la vis aux syndicats, qui se sont vus interdire désormais le droit de négocier, en tout cas dans le secteur public de cet État-là. Et au Québec, il y a même des gens partisans d'une certaine droite qui disent « Ben, il va falloir que ça arrête chez nous aussi, parce que même s'il y a 42% de syndiqués, on pourra pas leur donner tout ce qu'ils veulent, même s'ils menacent régulièrement de geler l'économie du Québec. Il en reste pas moins qu'à un moment donné, on ne sera plus capable de payer. On parlait du budget tout à l'heure. On va en parler maintenant avec des gens qui ont... Bon, entendre les syndicats en parler. Jean Lortie est président de la Fédération du commerce de la CSN, qui compte à peu près 300 000 travailleurs, travailleuses dans tous les secteurs d'activité à la CSN. Monsieur Lortie, merci d'être là.
Bonjour.
On vous a demandé de venir parce que c'est entre autres vous qui vous occupez de l'affaire, ce qui est devenu l'affaire Couche-Tard.
En effet.
La syndicalisation des dépanneurs au Québec. Et nous avons pensé vous mettre quand même un économiste de l'Institut économique de Montréal qui vient de sortir une étude intéressante. Youri Chassin est avec nous. Merci d'être là, Monsieur Chassin.
Merci.
Je vais donner la parole, si vous le voulez bien, à Monsieur Lortie, parce qu'effectivement, l'affaire Couche-Tard nous intéresse beaucoup. C'est quoi l'idée de syndiquer des dépanneurs, Monsieur Lortie?
D'abord, c'est pas des dépanneurs, c'est une corporation.
Les Couche-Tard.
Les Couche-Tard, ouais. C'est pas n'importe quelle entreprise, c'est pas le dépanneur du coin qui appartient à papa et à maman. C'est une entreprise milliardaire qui a plus de 8000 employés, qui a au-dessus de 500 dépanneurs. Alors, on a fait un choix.
Vous dites quoi? Vous dites qu'ils font bien du cash?
Non, on s'est dit
on
surtout.
On va aller les pomper?
Non, ça, on s'est dit surtout que c'est une entreprise qui est capable d'offrir à ses salariés des conditions de travail un peu plus intéressantes qu'ils ont actuellement. D'où la volonté de se syndiquer. Et je rappelle que c'est pas la CSN qui syndique, c'est qui ont demandé à la CSN de se syndiquer. Ça, c'est important de la nuance. Et ça s'est fait dans la clandestinité, parce qu'ici au Québec, on doit se syndiquer dans la clandestinité. Les représailles, les congédiements se font. D'ailleurs, vous vous rappelez, Mme Maréchal, ils ont fermé, barricadé un magasin à Belœil pour empêcher un syndicat. Donc, dans les Couche-Tard, on en a trois. On vient d'en déposer un autre ce matin sur la rue Saint-Denis.
Ah oui?
Oui. On est en campagne assez vigoureuse.
Donc là, il y a Saint-Denis,
Saint-Hubert et évidemment le premier, Jean Talon, Iberville. Donc, une syndicalisation, on dit, ces gens-là ont le droit, comme n'importe quel autre secteur d'activité, d'avoir des conditions de travail, de se faire respecter et des conditions de sécurité. Parce qu'on travaille avec de l'argent, les clients difficiles, des hold-up, et ces gens-là ont dit...
Mais est-ce qu'il y avait des plaintes dans les Couche-Tard? Est-ce que les employés disaient qu'ils étaient maltraités? Parce qu'on sait, bon, on connaît la situation dans les Walmart. En tout cas, à une certaine époque, c'est vrai que les employés sortaient pour le dire. Est-ce que dans les Couche-Tard, il y avait un problème?
Bien, s'ils syndiquent, c'est parce qu'il y a des problèmes dans les conditions de travail. Les gens, ce qu'ils nous disent, pourquoi ils se sont syndiqués, c'est que il y a beaucoup d'arbitraire. C'est le gérant. Selon les humeurs du gérant, tout se décide. Il n'y a pas de conditions de salaire. Hein, c'est le salaire minimum ou quelques sous plus. Les horaires de travail, c'est à peu près n'importe quoi.
Mais vous voulez qu'il soit payé combien, l'indépendant?
Je voudrais que la bataille, ça va être sur les conditions de travail, c'est-à-dire les horaires. Respecter les horaires de travail. Quand les gens disent on nous a octroyé un congé, on nous l'enlève pas parce qu'on a changé d'idée. La sécurité, les caméras. On met beaucoup de caméras, mais on n'aide pas les gens qui se font attaquer ou qui se font menacer par des clients difficiles parce qu'on leur ils ont pas le droit d'acheter de la bière. C'est toutes ces conditions-là qui ont fait que les gens ont dit, nous, on aimerait se faire respecter. On a une entreprise devant nous qui a les moyens de nous donner des conditions de travail et qui dit elle-même dans ses rapports annuels comme entreprise, tout se fait grâce à nos employés. Alors, ils disent, nous, on veut juste avoir leur juste.
Eh bien, là, oui, j'ai vu que vous disiez ça, M. Lortie. Je trouve ça dangereux parce que ça va faire en sorte... Déjà que les boss sont pas très généreux dans les commentaires positifs, là, le fait de dire ça, j'ai bien peur qu'ils finissent par se dire, on dira plus rien parce que dès qu'on le dit, il y a un syndicat qui va rentrer parce que dire que c'est grâce à nos nos employés, ça va faire augmenter leur salaire. Mais je trouve ça un peu bête.
Non. Je voudrais que, je rappelle encore une fois, c'est les employés qui ont demandé de se syndiquer et on a accepté comme CSN parce que on a fait le même débat à l'aube de l'an 2000 dans les McDo. Mm-hmm. On a eu plusieurs McDo à la CSN et c'était le même débat des jeunes à temps partiel qui dit on a-tu le droit d'avoir des conditions de travail le temps qu'on y soit, des conditions de santé et sécurité, c'est surtout ça dans le cas des McDo. Et ben c'est la même bataille qu'on mène actuellement dans les couches-tard, le droit de se faire respecter.
Ouais, mais on va en parler avec Monsieur Chassin. Votre réaction après les propos de Monsieur Lortie sur l'affaire couches-tard, entre autres, Monsieur Chassin, parce que à la lumière d'une étude de votre institut, l'Institut économique de Montréal, ce qu'on dit là-dedans, entre autres, dans cette étude, c'est que le modèle de syndicalisation au Québec, c'est un modèle qui a plus d'allure. Il faut le changer parce qu'en soi, c'est une anomalie, par exemple, de le faire de cette façon-là.
Effectivement, en fait, pour ce qui est de la situation particulière des couches-tard, il y a donc cette campagne de syndicalisation. Et au départ, c'est vraiment une question de liberté de pouvoir, dans le fond, le droit de s'associer, de pouvoir se syndiquer. C'est louable, ceci étant dit, le problème, c'est que le modèle de syndicalisation au Québec restreint un certain nombre de libertés, des libertés fondamentales des travailleurs. Et à ce propos, donc, notre étude souligne trois mécanismes qui donc sont des mécanismes restrictifs et qui sont jugés ailleurs, parce qu'on a comparé avec l'Australie, l'Europe, les États-Unis, qui sont jugés ailleurs comme des restrictions inadmissibles aux libertés des travailleurs.
Donc, par exemple,
le fait que pour 73% des syndicats au Québec, ils doivent adhérer au syndicat qui est en place. Ils n'ont pas le choix d'être membres s'ils veulent garder leur emploi.
C'est obligé.
C'est obligatoire. Le fait aussi de contribuer au syndicat, on connaît la formule RAND, mais c'est la formule RAND pour l'ensemble de la cotisation syndicale, y compris la partie qui n'est pas à des fins de négociation collective, par exemple pour soutenir des causes sociales ou idéologiques, que ce soit, par exemple, pour soutenir des syndicats à l'étranger, autre chose comme ça, ou encore, et c'est, je pense, fondamental, la liberté de s'accréditer, donc de former un syndicat, de façon démocratique, avec un scrutin secret qui soit automatique dans ce cas-là, et donc que les travailleurs puissent se prononcer sur leur syndicalisation, mais à l'abri des regards, à l'abri des pressions, en leur âme et conscience.
Parce que M. Lortie vient de dire, on est obligé de faire ça dans la clandestinité.
Oui. D'abord, c'est le premier élément sur la question de la syndicalisation au Québec. Ça se fait dans la clandestinité à cause des représailles. Alors, quand on parle de liberté de pouvoir avoir un vote lorsqu'on syndique, ce qui s'est passé aux États-Unis pour le reste du Canada, c'est immédiatement quand l'employeur part une campagne d'intimidation. C'est connu, c'est normé, on le sait ça. Alors, premier argument, ça se fait encore dans le secret, même si les décisions de la Cour suprême, des chartes, reconnaissent la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnaît le droit de se syndiquer, ça se fait encore caché. Deuxième élément sur la formule REN. N'importe quand je suis prêt à soutenir un débat sur la place publique, que la CSN finance le camp, pour le cancer des jeunes.
Ouais, ça, c'est des causes sociales. Je ne veux pas qu'on parle de la formule REN parce qu'on n'a pas le temps.
Non, effectivement. Alors, troisième élément sur la liberté. Ben, la liberté de quoi? Moi, j'aimerais ça entendre ce débat-là.
Mais la liberté de faire partie ou non d'un syndicat, oui, donner une cotisation syndicale ou non, ce qui permet, entre autres, d'avoir des sièges, de menacer de grève dans certains secteurs et de pouvoir toffer pendant longtemps parce qu'on sait qu'on a un gros, gros, gros fonds syndical.
Madame Maréchal, je vous dirais que au départ, la prémisse de base, c'est est-ce que les travailleurs ou les qui travaillent dans un milieu de travail peuvent avoir le droit de s'organiser? S'ils s'organisent, c'est quoi leur rapport de force, individuel ou collectif? Mm-hmm. Si on part de cette prémisse-là, l'Institut économique de Montréal se trompe dans son analyse. Si on part de la prémisse que chacun dispose d'un rapport de force face à leur employeur, ils ont raison. Mais c'est pas le cas.
Pourquoi ça pourrait pas être au choix comme ça se fait, par exemple, en France?
Mais
c'est comme
ça. Au choix. Au Québec, c'est 50% plus 1. Alors, attention, pour pouvoir être syndiqué, ça prend 50% plus 1 des membres d'une unité ou d'un milieu de travail pour pouvoir se syndiquer. C'est déjà une majorité. Dans nos démocraties, c'est ce qu'on demande. En Europe, il faut faire attention, c'est une adhésion individuelle. Mais en Europe, on négocie sectoriellement, ce qui n'est pas le cas au Québec. Ce qu'on fait au Québec, c'est boîte par boîte les conditions de travail. En Europe, c'est les grands secteurs, la sidérurgie. Ça a une valeur différente du syndicalisme.
Monsieur Jassin.
Oui, en fait, on parlait du 50% plus 1, donc l'exigence démocratique, mais de signature de carte. Et en fait, il y a donc là un problème, c'est-à-dire que effectivement, il y a des employeurs délinquants qui font des pressions. Le problème, c'est qu'il y a aussi
des syndicats qui
font des pressions. Ouais. Et l'idéal, en fait, pour mettre les gens à l'abri des pressions, à l'abri des menaces, et je ne sais pas, dans le fond, si vous allez être d'accord, Monsieur Lortie, Dans le fond, il faut laisser les gens, en leur âme et conscience, décider dans un scrutin secret. Et le problème étant aussi que quand on fait une campagne, dans le fond, à l'abri de la connaissance de l'employeur, c'est aussi de ne donner qu'un seul point de vue aux travailleurs, donc de pouvoir leur promettre mer et monde en termes de conditions d'emploi ou en termes de salaire, alors que l'employeur a peut-être pas la capacité de répondre à ces demandes-là.
Mais très rapidement, en terminant.
Je dirais que c'est faux. La prémisse est fausse. Les gens vont être intimidés, menacés de congédiement, de représailles. Donc, le vote va donner une période de champ libre à l'employeur pour attaquer la volonté des employés, la majorité absolue.
En même temps, il y a des beaux cas. Il y a un beau cas, là, ce matin. Là, oui. Puis finalement, ça a pas marché. Le syndicat ne rentrera pas dans cette usine, dans cette poissonnerie. C'est la poissonnerie Cowi. Évidemment, c'est pas la CSN. C'est les travailleurs unis de l'alimentation et du commerce. Mais il y avait à peu près 90 travailleurs là-dedans dans cette usine qui étaient visés par la demande d'accréditation syndicale. Puis il y en avait plus de la moitié qui étaient des étudiants, dont beaucoup mineurs. Et apparemment, le syndicat allait chez les jeunes sans l'accord de leurs parents. Et ça n'a pas marché. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être à négocier. Comment se fait qu'on peut demander à des travailleurs qui ne sont pas majeurs de décider comme ça? Mais c'est un débat que nous ne finirons pas ce matin, malheureusement.
On en a pas une heure, c'est la liberté aux gens de décider, par contre.
Et voilà. Merci beaucoup, M. Jassin. Merci, M. Lortie.
Merci
à tout le monde. À demain.